Monsieur Julien, la semaine dernière, vous nous avez raconté comment Saint Antonin avait subi la croisade des Albigeois. Certains Saint-Antoninois auront peut-être, comme moi, été un peu déçus par le comportement pas très glorieux parfois de nos ancêtres lors des trois assauts des troupes de Simon de Montfort. Mais on peut toutefois se consoler en pensant que cette faible résistance a peut-être permis à notre belle ville d'éviter la barbarie des croisés du Nord. Donc, en 1212, Saint-Antonin devient la possession de Simon de Montfort, puis plus tard, d'Amaury de Montfort. Finalement, Saint-Antonin est cédé au roi de France, et en janvier 1226, Saint-Louis, par un très beau diplôme qui reste célèbre dans notre histoire, prend notre ville sous sa protection. C'est donc en 1226 que Saint-Antonin entre dans le royaume de France. Et c'est de l'administration de cette nouvelle ville royale que vous allez aujourd'hui, Monsieur Julien, nous parler.
Oui.
Mais tout d'abord, Madame Julien, qu'avez-vous choisi pour illustrer cette émission ?
Eh bien, successivement, ce sera d'abord une pastourelle du trouvère Thibaut de Champagne, dont nous avons déjà entendu un chant de croisade. Cette pastourelle ne sera pas chantée, elle sera seulement jouée avec des instruments de l'époque. Nous entendrons ensuite de la musique du XIVe siècle qui accompagnera le cortège des consuls se rendant à l'église. Ensuite, un appel à la cornemuse, car l'us cornamusaires était souvent requis par l'administration municipale pour sonner des airs de fête, bien sûr, mais aussi pour appeler la population en vue d'un rassemblement, voire un rassemblement sur les remparts si c'est nécessaire. Et enfin, nous entendrons de la musique à danser.
Alors, Monsieur Julien, il me semble que la semaine dernière, vous avez émis quelques réserves sur la bonté et la générosité du geste de Saint-Louis.
Oui, c'est inévitable. Il s'institue ainsi au cours des temps, par la tradition, par les on-dit, une sorte de dictionnaire des idées reçues, qui veut par exemple que Louis IX, ce fut le bon roi, le roi Saint-Louis, plein de générosité, plein de douceur, plein de toutes les qualités qui ont justifié au XIVe siècle sa canonisation. Et certainement, les Saint-Antoninois d'aujourd'hui sont fiers et ils l'ont prouvé en 1970 quand ils ont organisé ici, quand mon prédécesseur, M. Combes, a organisé une exposition consacrée justement à Saint-Louis et qui se voulait une sorte d'hommage et de témoignage de reconnaissance envers ce grand roi qui avait bien voulu nous prendre sous sa protection. Vous savez, les hommes de tous les temps, et les plus humbles, hélas, ont toujours été honorés qu'un grand personnage daigne jeter un œil, même lointain, sur eux. Et pourtant, si on connaissait mieux la vraie histoire, on saurait que Louis IX n'avait pas 12 ans, comme je l'ai dit la dernière fois, quand ce document officiel fut rédigé sur ordre de sa mère, Blanche de Castille, qui, elle, croyez-moi, savait ce qu'elle faisait. On saurait que ce n'est pas par grandeur d'âme que le roi Louis IX ou sa mère nous ont pris sous leur protection, mais surtout et sans doute uniquement, parce que Saint-Antonin était alors une ville très riche économiquement, qui pouvait par conséquent, par les impôts qu'on pourrait lui imposer, rapporter beaucoup à la couronne, que c'était aussi une ville forte, dans une position stratégique propice comme point de départ des entreprises de conquête prochaine de tout le comté de Toulouse et aussi pour plus tard de lutte contre le duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre, lutte qui ouvrira, vous le savez, la fameuse guerre de Cent Ans. On saurait aussi que cette date marque le commencement de la décadence de la civilisation occitane, l'une des facettes de la richesse de notre ville. Et on saurait enfin que c'était là l'amorce de cette fameuse centralisation de l'État dont les édiles locaux, les élus municipaux ou autres se sont souvent plaints qu'elle était trop lourde. On se garderait donc de louanges excessives à l'égard d'un roi dont la bonté et la sainteté ne sont à la vérité que toutes relatives. N'oublions pas qu'il a décidé la mise en place de la funeste Inquisition et pensons au sort, nous, Saint-Antoninois, de notre pauvre vicomte Isard V, qui a été spolié de tous ses biens après son excommunication. Et pensons aussi au dernier cathare, qu'on appelait aussi Vaudois, traqué jusque dans les grottes, comme je l'ai dit, pour la Dame Blanche, ou dans le vallon sauvage d'Alzone, près de Verfeil, où 30 d'entre eux, en 1322, furent surpris.
Oui. Alors, Monsieur Julien, est-ce que vous pouvez nous dire comment, à l'époque, les Saint-Antoninois ont accepté cette prise de possession de leur ville par le roi de France?
Je pense qu'ils l'ont bien accepté. En tout cas, les consuls de la ville considèrent qu'ils s'en sont tirés à bon compte, même si le beau parchemin leur a coûté plusieurs livres parisis. Vous savez, il faut savoir que le sceau du roi, qui est au bas de ce parchemin, ne s'appose pas pour rien. Et d'autre part, il fallait aller retirer ce document précieux à Paris. À Paris, rendez-vous compte, 15 jours de voyage au moins, pour les finances locales, c'était une dépense considérable. Mais enfin, les consuls s'en sont tirés à bon compte. Ils n'ont plus rien à redouter des incursions des croisés, et ils vont pouvoir s'occuper d'accroître la prospérité de leur ville en toute liberté, pensent-ils, puisqu'ils n'auront plus de compte à rendre à un seigneur local, même inoffensif. Le seigneur roi est loin. Eh oui, il est loin. Mais il a nommé un bailli, si vous voulez, qui est un homme du Nord, toujours, qui parle français, qui ne tardera pas à se montrer plus tracassier et plus exigeant que les vicomtes. Et ce bailli, c'est là que c'est intéressant, logé certainement dans une maison qui alors venait tout juste d'être construite. Celle que nous appelons aujourd'hui Maison du Roi, place de la Jouaille, avec sa belle façade de style gothique naissant que M. Robert des Hus a entrepris récemment de restaurer avec quel goût et avec quel courage.
Oui, ce devait être un sérieux handicap pour les Saint-Antoninois d'avoir un bailli qui parlait français.
Et c'était un handicap, il faudra donc se mettre à parler français, bien sûr. D'autant que ce bailli ne résidera pas ici très longtemps, il ne pourra pas apprendre l'occitan. On le changera au moins tous les 2 ans. On comprend pourquoi. Il ne faut pas que ce fonctionnaire d'autorité, un peu comme un gendarme ou un procureur, il ne faut pas qu'il succombe à la séduction des Saint-Antoninois ou des Saint-Antoninoises. Il rendra la justice au nom du roi, il aura sa prison qui se trouvait place du Bioc, là où autrefois était un marronnier devant la boucherie de M. Gols. Il y avait là un bâtiment important qui était la prison royale. Elle est aujourd'hui démolie, cette prison, bien sûr. Il essaiera par tous les moyens d'empiéter sur les attributions des consuls qui devront très souvent engager procès contre lui en s'autorisant du diplôme de Saint-Louis qui a confirmé leur coutume. Quand, en 1271, le comté de Toulouse deviendra français, après la mort d'Alphonse de Poitiers, héritier de Raymond VII, le bailli sera supprimé et il faudra alors se déplacer à Bialafranco, Villefranche, cette bastide créée en 1242 est devenue très vite une grande ville. Là réside le nouveau représentant du roi, Lou Sénescal, le sénéchal, qu'on ira voir souvent, qui viendra quelquefois par an à Saint-Antonin tenir ses assises, et auquel, à chaque fois, pour qu'il vous écoute d'abord, pour qu'il vous entende ensuite, pour qu'il vous soit favorable, enfin, on fera un présent de pain et de vin, ou bien de fougassettes et de vin blanc, et au jour de l'an, per l'anneau, le magnifique présent, avec des brutos de gingembre, de pignourate, ce sont des choses rares, qu'on lui fera porter à Villefranche par un messager avec une aigle, avec une jument.
Oui, et vous nous aviez dit que Villefranche n'était pas encore une ville très importante. Alors, c'est un peu étonnant cette position du sénéchal à Villefranche.
Oui, oui, cette position, oui. Pourquoi le choix de Villefranche alors que la véritable résidence du sénéchal, à partir d'Alphonse de Poitiers, avait été Najac? Cette ville importante aussi est très bien fortifiée. Je pense que Villefranche, donc, qui avait été créée au milieu du XIIIe siècle, commençait de se développer pour des raisons économiques et politiques, et qu'elle s'était développée très vite. Et les raisons économiques, à mon sens, mais là je n'ai peut-être pas qualité pour en débattre sérieusement, étaient que Villefranche était placée sur l'emplacement d'une ancienne ville, d'une ancienne agglomération datant de l'époque gallo-romaine, pas tout à fait au même endroit, mais très près, et qui s'appelait Carantomac, une ville qui était sur la grande voie romaine de Cahors à Lyon, de Divona à Lugdunum. Deuxièmement, on avait découvert à l'époque romaine, et elles étaient toujours en exploitation à l'époque où nous sommes, maintenant dont nous parlons, des mines de plomb argentifère sur la colline au sud de Villefranche. Et ça, c'est une richesse économique incontestable, parce que ces mines vont permettre l'installation à Villefranche d'un atelier monétaire pour la fabrication des monnaies. Donc, on attire là une population d'ouvriers, de travailleurs, de marchands, de changeurs. Cela explique aussi, c'est la deuxième, à mon point de vue, raison économique. Il y a des raisons politiques. Villefranche aussi, dans cette zone que forment le comté de Rouergue, le Quercy, le Haut-Languedoc, est la position centrale. Et sans doute, pour l'administration royale, c'est une position favorable. Plus que celle de Saint-Antonin, Saint-Antonin qui d'ailleurs était beaucoup plus peuplé que Villefranche à ce moment-là, parce que Saint-Antonin déjà se trouvait à marge de la province et un peu trop près sans doute des possessions d'un ennemi redoutable que le roi connaissait bien, c'est-à-dire le duc d'Aquitaine qui n'était autre que le roi d'Angleterre, et il savait très bien, puisque déjà des conflits avaient éclaté, qu'un jour ou l'autre une guerre allait intervenir entre le roi de France et le roi d'Angleterre, cette fameuse guerre que nous connaissons sous le nom de guerre de Cent Ans, et Saint-Antonin était un peu exposé là où est situé Saint-Antonin, trop au bord de la frontière. Voilà peut-être ce qui explique le choix de Villefranche comme résidence du sénéchal. L'administration municipale, disons l'administration consulaire, est en place. Elle était alors beaucoup plus importante, beaucoup plus diversifiée et surtout d'action plus quotidienne et en définitive plus démocratique qu'aujourd'hui, même si seuls les bourgeois avaient tout le pouvoir. Les consuls exerçaient une gestion collégiale et ils avaient un pouvoir et un prestige bien supérieurs à celui ou à ceux des conseillers municipaux actuels. Ils habitaient d'abord tous dans la ville. Ils étaient connus de tous. À noter que la hiérarchie n'existait pas entre eux. C'est beaucoup plus tard, 2 siècles plus tard, que l'on instituera le poste de premier consul. Et ce n'est seulement qu'en 1692 que le roi Louis XIV créera la fonction de maire, véritable chef de la commune, telle qu'elle apparaît encore aujourd'hui.
Oui, monsieur Julien, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais que vous nous apportiez quelques éclaircissements. Vous nous avez dit d'abord que l'administration municipale était beaucoup plus démocratique qu'aujourd'hui. Or, seuls les bourgeois avaient accès à ces postes de responsabilité. Et bon, ça paraît un peu incompatible, surtout si l'on considère que seuls les consuls sortants et les 24 prud'hommes conseillers de ville élisaient les nouveaux consuls.
Et oui, en apparence, oui. Et il semble donc que c'est une petite minorité qui gère la ville. Mais j'ai bien dit que ces 12 consuls, ces 24 conseillers de ville, habitent là, dans la ville. Ils sont sous le regard permanent de tout le peuple le plus nombreux, ce qu'on appelle aujourd'hui les prolétaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de fortune, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui sont au service des autres. Mais vous savez, à partir du moment où on est sous le regard des hommes, c'est déjà une forme de démocratie. D'autre part, il faut bien considérer que les fonctions de consul et de conseiller de ville étaient gratuites. Il n'y avait même pas, aussi modeste soit-elle aujourd'hui, il n'y avait même pas, pour les indemniser quelque peu, ces fameuses indemnités de maire et d'adjoint qu'ont nos élus actuels. Il faut donc comprendre que les consuls qui administraient la ville et qui étaient tenus à ce service quotidiennement, nous le verrons, pour tout régler toutes les affaires, devaient pouvoir avoir une fortune suffisante pour se dispenser d'être à leur magasin ou à leur atelier. Comment voulez-vous qu'un pauvre qui n'avait que ses bras pour manger, pour gagner sa vie, puisse perdre des journées à administrer? Alors même si les textes n'interdisaient pas au peuple d'être membre du consulat, la nécessité les obligeait à s'en abstenir. Vous comprenez? Bon, un consul, qu'est-ce qu'il touchait, un consul, hein? Un consul, s'il se mariait, comme je le trouve là dans un compte consulaire, vous voyez, voilà, on lit ça, hein? Le consul, on lui fait une fleur. Paguem, ça se passe en 1362, paguem per un present que faisem al seny Pedel Bugagnac, qu'empres sa mulier 2 livres. Ça veut dire que ce consul, il s'est marié. Tout le monde peut le faire, bien sûr. Bon, alors ça lui fait des frais, et le consulat décide que sur les fonds de la commune, on va lui donner 2 livres. 2 livres de francs, si vous voulez. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Attention, un ouvrier charpentier, un ouvrier maçon, pour sa journée, à cette époque-là, gagnait 2 sous. C'est-à-dire, la livre valait 20 sous. Donc, 2 livres, ça faisait 20 journées de travail d'ouvrier. C'était quand même un petit cadeau sympathique, quoi, hein? Mais c'est tout ce qu'il avait. Si la robe consulaire dont nous parlons tout à l'heure était usée, on la lui payait, quelquefois. Et pas toujours. Il fallait même, au début, que chaque consul se paie sa robe consulaire, son chaperon. Ça faisait des frais. Voilà ce qui explique un peu cette entorse à la démocratie. Mais la démocratie, je ne crois pas, enfin on pourrait en discuter longtemps, hein. Ce n'est pas simplement un vote de suffrage universel, tout ça, c'est autre chose, c'est un esprit.
Oui, et il y a un autre de vos propos qui m'a un peu surpris. Vous nous avez dit que tous les consuls habitaient dans la ville.
Oui.
Et dans une autre émission, vous nous aviez expliqué qu'à partir de l'an 1000, le milieu rural s'était beaucoup développé et était même en partie à l'origine de la prospérité de Saint-Antonin. Alors, je voulais savoir comment était représenté et administré ce milieu rural.
Ah bon, alors là, je ne l'avais pas prévu, mais enfin, je vais répondre. Alors là, il faut bien imaginer que j'ai dit une chose aussi, qu'à partir du moment où les seigneurs ont disparu, en 1240 exactement, le roi est devenu seigneur de la ville, mais qu'en réalité, le pouvoir C'était la ville qui le détenait et les bourgeois de la ville. Et alors je vais vous amuser avec une petite histoire justement de la campagne. La campagne s'est très développée. Il y a des paysans qui se sont installés partout, etc. Bon, en 1279, le roi Philippe III le Hardi, préoccupé par le danger que faisait courir à son domaine royal les ambitions du roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, a voulu protéger la ville de Saint-Antonin, qui se trouvait aux frontières, comme je l'ai dit tout à l'heure, en lui donnant une sorte de no man's land protecteur. J'espère que tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire un territoire en avant d'elle. Et alors, il a donné à la ville de Saint-Antonin une portion du Quercy, qui est comprise entre la ville de Saint-Antonin et Sept-Fonds, ce qui est aujourd'hui le causse de Servanac. À cette époque-là, c'était un territoire à peu près désert, à l'exception de quelques hameaux comme Servanac, Montpalache et La Veillerie. Il n'y avait pas d'habitation. C'était couvert de bois, de friches, avec des bois avec les chênes rabourris que nous connaissons. Alors à partir de là, ce territoire est énorme, considérable, devient propriété de la ville de Saint-Antonin, c'est-à-dire du consulat, c'est-à-dire du bourgeois. Et alors ça, c'est ça qui est plaisant. Nous sommes, sans doute, dans l'histoire de France, la ville de Saint-Antonin est la première puissance coloniale. En effet, immédiatement, les consuls de Saint-Antonin décident de coloniser le causse du Quercy en y implantant des familles de Saint-Antoninois pauvres qui vont s'établir là-haut dans des domaines qui portent encore aujourd'hui leur nom. Par exemple, Tabarly. Par exemple, David. Par exemple, Cadenne. Vous voyez tous ces noms-là? Les Alauzés, Audubert. D'où pensez-vous que ça vient, ça? Ce sont des familles de Saint-Antonin qui sont allées coloniser le causse du Quercy. Et depuis ce temps, et c'est amusant parce que ça se sent encore aujourd'hui, les gens de ce territoire ne sont que des peuples colonisés. Excusez-moi, mais mesdames et messieurs qui habitaient le plateau de Servanac, c'est pas pour vous que je parle. Hein. Mais enfin, il s'est développé là une mentalité de coloniser leur maître, celui qui les exploite, parce que la ville de Saint-Antonin, tenez-vous bien, percevait sur tous les domaines qui s'étaient ainsi créés, les exploitations, les champs, percevait un impôt comme si elle avait été le roi, que les autres devaient porter à la ville. Et alors, ils ont toujours conçu, les gens de cette région, une certaine, bah, peut-être une hargne, mais enfin, ils nous considèrent un peu comme des gens qui se veulent supérieurs. Et voilà pourquoi, dans la suite de l'histoire, j'en parlerai beaucoup plus tard, les gens de Servanac, du coin de Servanac, ont très souvent essayé de se détacher de la commune de Saint-Antonin. Ça vient de là.
Alors, Monsieur Julien, est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant comment se passait l'élection des consuls?
Bon, sachons d'abord que les consuls étaient élus pour un an. Alors, je suis confondu quand on me dit il faut que les conseillers municipaux aujourd'hui soient élus pour 6 ans, parce qu'il faut au moins 6 ans pour faire du bon travail. Il faut que le président de la République soit élu pour 7 ans. Parce qu'il faut qu'il ait du temps pour appliquer son programme. Et bien voilà, Saint-Antonin a vécu prospère, Saint-Antonin s'est développé, Saint-Antonin a réalisé des choses absolument impossibles à réaliser aujourd'hui, et les consuls n'étaient élus que pour 1 an. Vous voyez comme il y a des contradictions dans la philosophie et dans l'économie. Et non seulement ça, ils étaient élus pour 1 an, mais un consul n'était pas renouvelable, c'est la charte qui le précise, en aucun cas. Les consuls qui sortaient, ça y est, ils étaient remplacés par 12 autres, et puis c'est fini. La cérémonie de l'élection avait lieu le jour de Toussaint, qu'on appelait alors le jour de Martros ou de Martyros, le jour des martyrs, le jour des saints. C'était le 1er novembre. Elle se déroulait dans la salle du consulat, al consulat, comme on disait, qui, à partir de 1312, date de son achat par la communauté, sera la salle du premier étage du musée actuel. C'est cette année-là, en effet, en 1312, que les consuls avaient enfin réussi à acheter ce magnifique palais roman, encore appelé alors la maison neuve de Granollier, pour 400 livres Cahorsin. C'était des livres de la monnaie de Cahors. une petite parenthèse, j'ai oublié de dire que quand Louis, Saint Louis a pris la ville sous sa protection, il a autorisé les Saint-Antoninois à battre monnaie. Nous avons eu un atelier monétaire ici. Mais la monnaie de Saint-Antonin ne devait pas être formidable, parce que dans tous les comptes que j'ai épluchés, je n'ai trouvé qu'une fois des paiements en sol de Saint-Antonin. Alors, elle s'est très vite dévaluée, la monnaie de Saint-Antonin. Bon, alors la veille de l'élection des consuls, donc le 31 octobre, les sergents de ville, les employés qu'on avait engagés à cet effet, avaient nettoyé les locaux, et surtout, c'est ça qui est intéressant, ils avaient recouvert tout le pavement de la salle, qui était en pierre, avec de la paille de blé fraîche. Et ça, c'était une habitude du Moyen-Âge. On ne mettait pas des tapis par terre, mais on mettait des jonchées de paille. Ou, quand c'était en été, des jonchées d'herbes et de fleurs. Au mur, on avait accroché des sortes de torchères dans lesquelles on avait placé des chandelles. Et c'est la grande assemblée qui va se tenir. Vous connaissez tous la salle, elle n'est pas immense, hein. Alors 24 conseillers de ville, 12 consuls sont réunis là, ils vont délibérer si une vingtaine ou 30 personnes autres peuvent y assister, c'est tout, hein. Ce n'est pas un meeting, comme on dirait aujourd'hui. Alors voilà, tout le monde est là, et chaque consul sortant, qui va quitter sa charge, prend un bout de papier. Le papier existait, hein, mesdames et messieurs. Il prend un bout de papier qu'on appelait un cartel, sans doute parce que c'était un quart de feuille. Et il inscrit sur ce cartel 3 noms, à sa convenance, qu'il choisit parmi des gens qu'il connaît, mais il sait qu'il ne doit pas choisir un parent ni un malhonnête homme, il doit choisir quelqu'un de bien, en principe. Il plie son cartel en deux et il quitte la salle. Un membre de l'assemblée, le doyen d'âge, ouvre son papier, annonce les 3 noms, et l'ensemble, les 24 conseillers de ville et les 11 consuls restants, à la pluralité des voix, c'est-à-dire un scrutin que l'on inscrit sur une feuille de papier avec, et chose curieuse, avec des barres comme aujourd'hui. On écrit les 3 noms, on donne chaque fois, en comptant, un tel temps de voix, un tel temps de voix, et c'est celui qui a le plus de voix qui est élu. Ainsi se déroulera l'élection pour tous les 12 à élire. À ce moment-là, le doyen d'âge invite les 12 nouveaux élus à accepter leur charge. Ils ne sont pas toujours là d'ailleurs. Et quelquefois, le consul a voté pour quelqu'un qui n'est pas là. Alors on expédie vite un sergent de ville qui va chez lui le chercher. Il le ramène en général, parce qu'il faut bien comprendre que celui qui l'a élu lui a dit « je voterai pour toi ». Enfin, je ne sais pas. Mais quelquefois, on ne le trouve pas, ça pose problème. Et d'autres fois, alors, le consul n'accepte pas d'être élu. Pourtant, c'est un honneur. Oui, mais il sait ce que ça pèse, cet honneur, et ce que ça va lui coûter. Enfin, on le supplie, on l'invite, et puis surtout, on ne lui permet pas de refuser. C'est ça qui était bien, on n'a pas le droit de ne pas être élu. Merveilleux, ça, hein. Il y en a beaucoup qui seraient contents aujourd'hui. Et alors, cela fait, chaque consul élu va prêter serment sur les saints évangiles. Ces saints évangiles se trouvent, les 4 évangiles, de Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean et Saint Marc. Et se trouvent aujourd'hui, nous les possédons dans un beau livre, relié en parchemin et en latin. Et là, le livre ouvert, le consul debout pose sa main sur le livre et prête serment de bien et fidèlement servir la ville. Alors, quand ça s'est fait, ils ont accepté la charge, ils ont prêté serment. À ce moment-là, on les revêt de la livrée consulaire. On leur passe la cape et le chaperon, et on leur met sur la tête le chaperon. La raubo, on disait la raubo, on ne disait pas la cape. En réalité, c'est une cape, comme une pèlerine, un manteau, qui ici à Saint-Antonin était mezz rosso et mezz brunetto, c'est-à-dire mi-partie rouge d'un côté et mi-partie noire de notre côté. Et alors là, si je ne suis pas trop long, excusez-moi, et je voudrais préciser une chose. Beaucoup de Saint-Antoninois s'enorgueillissent de ça et disent, voyez, nos consuls avaient des robes rouges et noires, donc les couleurs de Saint-Antonin, comme celles de l'avant-garde Saint-Antoninoise, c'est le rouge et le noir. Alors, pas trop. Alors, poussons pas trop. Si vous allez à Montauban, Les consuls aussi avaient des robes rouges et noires. Si vous regardez les peintures qui représentent à l'hôtel de ville de Toulouse, au Capitole de Toulouse, ou au musée de Toulouse, les portraits des capitouls de Toulouse, vous verrez aussi qu'ils ont des robes rouges et noires. Disons, bon, nous n'enlevons pas les couleurs de Saint-Antonin, gardez-les si vous voulez, mais enfin c'était les couleurs de toutes les villes qui étaient des républiques, c'est-à-dire dans lesquelles les consuls avaient le pouvoir. Pensez au rouge. La pourpre royale, c'est le symbole du pouvoir. Ça, hein? Le noir, je ne sais pas, bon, peu importe. Enfin, le rouge et le noir sont très souvent associés. Voilà, les consuls revêtus de leur charge. Et alors, tout le monde s'apprête maintenant pour le cortège. Un cortège formidable qui, par les rues d'El Cusulat, qui s'appelle aujourd'hui la rue Guillaume Peyre, la rue Caïssac, la rue d'El Mazel Nou, que nous appelons aujourd'hui les grandes boucheries, puis la place de la Jugaria, ensuite la carrière de l'hôpital major, la rue de l'hôpital majeur, le cortège va se rendre à l'église Nostro Dono del Moustier pour y entendre la messe, vous comprenez laquelle, la messe du Saint-Esprit, qui va pénétrer les consuls de leurs nouveaux devoirs et de leurs obligations. En tête du cortège, los trompaires, c'est-à-dire les joueurs de trompe, los cornomusaires, les joueurs de cornemuse, suivis des quatre sergents de ville portant au levé les panonceaux royaux et consulaires et les entortas. C'était des sortes d'énormes chandeliers de bois avec un gros cierge de cire blanche décoré. Viennent après les 12 consuls nouveaux, puis les anciens, tout le conseil de ville, et enfin les citoyens, cependant qu'aux fenêtres se pressent les têtes de curieux, les cloches sonnent. À l'issue de la messe, à laquelle ont assisté encore toutes les congrégations religieuses qui se trouvaient à Saint-Antonin à ce moment-là, c'est-à-dire tous les chanoines de l'abbaye, bien sûr, tous les moines des Carmes, tous les moines des frères mineurs, autrement dit cordeliers, à l'issue de cette messe, sera offert par les élus, dans une taverne, c'est-à-dire une auberge, le repas consulaire. Oh, très simple d'ailleurs, du moins au début. Après, il deviendra plus copieux. Toujours des fougassettes avec du vin blanc. Fougassettes, c'est une petite foisse. C'est un gâteau tout à fait particulier à Saint-Antonin. Et des dragées. Puis, les nouveaux consuls vont entrer en charge pour un an. Leur première tâche, dès le lendemain, quelquefois le dimanche suivant, mais surtout dès le lendemain, est de nommer aux fonctions publiques très nombreuses à cette époque-là. L'administration communale de l'époque a autant d'attributions qu'un gouvernement moderne. La ville des XIIIe et XIVe siècles est une véritable république dont les consuls doivent pourvoir à tout en nommant des responsables qu'ils appellent communément gardos, gardes.